Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants, Urbania et Nature sauvage. Au programme, ça mange quoi en hiver? Un chercheur ou une chercheuse? Et entre la Méganie et l'Atlantique. Bonne écoute.
Ça mange quoi en hiver? Un chercheur ou une chercheuse? Un texte de Catherine Foisy, paru le 6 mars 2023 dans Urbania. Urbania est l'Institut national de la recherche scientifique, l'INRS pour les intimes, s'unissent pour déboulonner les mythes qui entourent le milieu de la recherche, ce secret bien gardé, du monde des études supérieures. Tout le monde sait à peu près ce que sont le cégep et l'université, mais dès qu'on s'aventure au sein des cycles supérieurs, les choses commencent à se complexifier. Ça mange quoi en hiver, une personne qui se consacre à la recherche scientifique? C'est la question à partir de laquelle on a mené notre propre recherche. Première étape, échanger avec deux chercheuses de l'INRS, un établissement universitaire qui se consacre à la recherche et à la formation au cycle supérieur. Tous les chemins peuvent mener au doctorat. Je me souviendrai toujours du jour où une professeure m'a dit que mes notes n'étaient pas assez bonnes pour que je puisse faire un stage. Raconte Aïcha Sow, aujourd'hui candidate au doctorat en virologie moléculaire, une discipline scientifique qui s'intéresse aux virus et aux agents infectieux. Mais son chemin était loin d'être tracé d'avance. Pendant son baccalauréat en sciences biomédicales, Aïcha n'avait aucune idée de ce qu'elle souhaitait faire de sa vie. Elle a dû essuyer pas mal de jugements portés à son égard quand on lui demandait « Tu veux faire quoi plus tard ?» et qu'elle n'avait pas de réponse. Cela la démotivait, si bien que ses notes franchissaient de justesse le seuil de passage, jusqu'à ce qu'elle décide de se mettre au défi de se rendre à la maîtrise, ce qu'elle a réussi. C'est finalement lors d'un stage en laboratoire pendant sa maîtrise en biochimie qu'elle est tombée en amour avec la recherche. La recherche me permet de mettre en pratique tout ce qu'on considérait comme des défauts chez moi quand j'étais enfant, soit mon immense curiosité et mon amour pour les détails, explique-t-elle. De la Colombie au Canada, en passant par le Brésil. Diana Peña Ruiz est née en Colombie et a étudié au Brésil. Elle s'amuse à dire que la recherche fait partie de son ADN parce qu'elle a vu son père travailler fort en tant que chercheur et a presque toujours su qu'elle obtiendrait un jour son doctorat. Littérature, anthropologie et démographie sont les trois domaines d'études qui ont fait partie de son quotidien avant qu'elle décide de se lancer dans un doctorat en études des populations à l'INRS. C'est une prof du Brésil qui nous a parlé de l'INRS. Quand j'ai voulu être admise quelque part pour faire un doctorat, des années plus tard, je regardais mes options aux Pays-Bas, en Amérique latine, en Australie, au Canada et un peu partout. Je me suis alors souvenue de l'INRS. J'ai écrit à l'Institut et j'ai pu me faire accompagner par plusieurs personnes, dont celle qui est aujourd'hui ma directrice de recherche. Dans le cadre de son projet de recherche, Diana s'intéresse aux accumulations patrimoniales et aux inégalités de genre en matière d'intégration financière parmi la communauté colombienne à Montréal. Note à nous-mêmes, il y a presque autant de concentrations de recherche qu'il y a de sciences. Vous écoutez, ça mange quoi en hiver, un chercheur ou une chercheuse? Un texte de Catherine Foisy, paru le 6 mars 2023 dans Urbania. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Avec l'aide d'une orthopédagogue, Diana a réussi à organiser son emploi du temps de manière à maintenir un certain équilibre entre sa vie de chercheuse et sa vie personnelle. J'ai compris que j'étais plus concentrée et inspirée le matin. Je me réserve donc des choses qui nécessitent moins de concentration l'après-midi, explique-t-elle. En plus de consacrer du temps à sa propre recherche, Diana travaille à la réalisation d'une autre recherche avec sa directrice et assiste la coordination de Familles en mouvance, un partenariat de recherche dont fait partie l'INRS. Les 4 bourses qu'elle a obtenues, auxquelles s'ajoute le salaire qu'elle obtient grâce à ses 2 contrats de recherche, lui permettent de financer ses études et de payer son appartement. Autre note à nous-mêmes, oui, c'est possible de vivre de bourses et de contrats en milieu universitaire. Aïcha, de son côté, organise ses journées autour des expériences qu'elle souhaite réaliser. En 5 ans, je n'ai jamais eu 2 journées pareilles. Même si je prévois ma semaine le lundi, je ne suis jamais à l'abri de surprises qui m'obligent à revoir mon horaire, explique-t-elle. Ces surprises ne l'empêchent quand même pas de sortir de temps en temps et d'avoir des week-ends trépidants. Geek de jour, fashionista de soir et boulangère à temps partiel. Quand on pense aux chercheurs et aux chercheuses, on s'imagine, à tort, des personnes qui ont constamment les yeux rivés sur leurs expériences et leurs bouquins. Certes, il faut être passionné de recherche, mais pas que. Je suis fière d'être une geek. Mon émoji préféré est d'ailleurs celui avec les lunettes, parce que je trouve qu'il me ressemble, déclare Diana avec un brin d'humour. Même si elle se qualifie elle-même de geek, Diana a plusieurs passions qu'elle entretient le soir et la fin de semaine. Littérature, boulangerie et pâtisserie sont 3 d'entre elles. Elle a même ouvert sa propre boulangerie en Colombie après sa maîtrise, juste avant l'INRS, histoire de se donner le temps de vivre autre chose. Notons que son petit côté autodidacte lui a quand même grandement servi, puisqu'elle a appris à faire son pain et ses pâtisseries toute seule en lisant sur le sujet. Aïcha, de son côté, ne se considère pas comme une nerd ni une geek. Il faut savoir que si elle préfère porter jeans et sneakers au labo pour son confort, elle ne sort jamais de chez elle sans ses talons hauts et elle tripe sur les voyages. Énième note à nous-mêmes, la recherche et le style sont compatibles. Démocratiser la recherche, un geste à la fois. J'aurais aimé qu'on me parle de recherche quand j'étais plus jeune. Ça m'aurait permis d'apprécier mon bac et de me sentir moins perdue, conclut Aïcha, qui aspire à faire de la recherche sa carrière. Aïcha est actuellement l'une des rares chercheuses sénégalaises. Un rapport de l'UNESCO révélait en effet qu'en 2018, seulement 2,5% des personnes se consacrant à la recherche scientifique dans le monde étaient africaines et que seulement 29,3% des chercheurs-chercheuses sénégalais-sénégalaises étaient des femmes. C'est cette statistique qui l'a poussée à créer sa propre fondation, Jigen in STEM, J-I-G-E-E-N, in S-T-E-M. Pour la petite histoire, Jigen veut dire « femme » en Wolof, sa langue d'origine, et « STEM » ou « STIM » en français, est un acronyme courant pour « science, technologie, ingénierie et mathématiques ». Grâce à sa fondation, Aïcha offre des bourses aux jeunes Sénégalaises qui souhaitent se lancer dans ces domaines et fait connaître des parcours de chercheuses. En résumé, ça mange quoi en hiver, un chercheur ou une chercheuse? Pas mal de choses. Et c'est tant mieux, parce que la recherche a besoin d'une diversité de personnes au parcours pluriel pour faire avancer notre société. C'était « Ça mange quoi en hiver, un chercheur ou une chercheuse? » Un texte de Catherine Foisy, paru le 6 mars 2023 dans Urbania.
Le macareux moine entre la Mingani et l'Atlantique, un texte de Benjamin Daille, paru dans Nature sauvage, printemps 2022, numéro 55. Charismatique de par ses couleurs et son grégarisme estival, le macareux moine détient une place unique dans le patrimoine aviaire québécois et tout particulièrement de la Mingani. Portrait d'un oiseau pélagique qui partage sa vie entre les terriers de ses colonies insulaires et les vagues de la haute mer nourricière. Des 4 espèces de macareux présentes sur la planète, le macareux moine est le seul qui peuple l'Atlantique Nord. Il est un des oiseaux marins les plus abondants de l'hémisphère nord. Sa population mondiale étant estimée à 24 millions d'individus, dont 12 millions sont nicheurs, l'autre moitié étant encore trop jeune pour nicher. En Amérique du Nord, on dénombre environ 500 000 couples nicheurs entre le nord du Maine et l'Arctique canadien, près de 60 % de ses effectifs étant concentré sur seulement 4 îles de la baie Whitless, au large de la côte est de l'île de Terre-Neuve. C'est d'ailleurs la province de Terre-Neuve et Labrador, dont le macareux moine est l'emblème aviaire, qui compte le plus grand nombre d'individus dans cette région du globe. D'autres colonies, parmi les plus importantes, se trouvent en Islande, en Norvège, ainsi que sur les îles Féroé et britanniques. Il ne faudrait pas oublier toutefois que ce magnifique oiseau au bec coloré si caractéristique est aussi présent sur les côtes maritimes du Québec. Chaque été, plusieurs dizaines de milliers de couples se reproduisent sur le littoral marin québécois, et notamment en Mingani. L'île à Calculo des Bechouanes, l'île au Perroquet et l'île de la Maison, toutes situées dans la réserve de parc national de l'archipel de Mingan, sont des lieux de reproduction notoires. Des colonies restreintes, habituellement inférieures à 100 couples nicheurs, sont également recensées en d'autres points sur les littoraux du golfe du Saint-Laurent, de l'île d'Anticosti et de la Gaspésie. Un oiseau marin à l'apparence singulière. Le macareux moine se reconnaît à son large bec polychrome qui, au printemps et en été, se pare de bandes orangées, jaunes et bleues, s'alliant à la coloration de ses yeux et à ses joues rebondies pour lui conférer un air fort expressif. Ses pattes, d'un orange vif, contribue, comme son bec, à égayer son plumage noir et blanc, qui sans cela serait une livrée courante et sobre. À ce titre, le terme « fratercula », tiré de son nom scientifique et qui signifie « moine », convient bien à son plumage rappelant la sobriété de la robe monastique. Contre toute attente, avec la fin de la période de reproduction, ses éclatantes couleurs l'abandonnent. Les bandes multicolores de son bec s'affadissent et matissent, sa face s'assombrit et une mue partielle des plumes du cou et de la tête le rend presque méconnaissable à tel point que les biologistes ont longtemps cru qu'il s'agissait d'une espèce différente quand l'oiseau était observé en hiver. À la fin de la saison froide, la mue annuelle des plumes de ses ailes le rend inapte au vol durant plusieurs semaines. Balourd en vol, déluré sous l'eau. À l'instar de tous les membres de la famille des Alcidés, le macareux moine est assez peu habile dans ses déplacements aériens. Après un envol laborieux, il doit en effet conserver la cadence extrêmement élevée de 300 à 400 battements d'ailes à la minute afin de se maintenir dans les airs. En contrepartie de cette lourdeur en vol, il est exceptionnellement rapide et agile sous l'eau. Sa morphologie est à n'en point douter extraordinairement bien adaptée à la plongée. Son corps compact, robuste et relativement allongé, associé à un bec et une tête de forme hydrodynamique, offre une résistance minimale à l'élément liquide. Ses ailes, courtes et parées de muscles puissants, lui servent à se propulser efficacement à la poursuite de petits poissons tels que capelins et lançons. Ce macareux se nourrit aussi parfois de menus crustacés et de calmars, tout en s'orientant adroitement grâce à ses pattes qui tiennent lieu de gouvernail. Vous écoutez Le macareux moine entre la Mingani et l'Atlantique, un texte de Benjamin Daye paru dans Nature sauvage, printemps 2022, numéro 55. Demeure pélagique et terrestre. Avant tout oiseau marin de haute mer, le macareux moine passe la majeure partie de son existence à s'alimenter en zone océanique. Cependant, année après année, il revient pendant 4 à 5 mois sur la terre ferme dans le but de se reproduire au sein des mêmes colonies. Chaque couple, uni pour la vie, réutilise également le même terrier où il élève le seul et unique jeune de la couvée. Ces terriers, creusés dans le sol par les adultes à l'aide de leur bec et de leurs pattes dotées de griffes acérées, mesurent de 50 à 200 cm de longueur et ont pour vocation première d'assurer la sécurité de l'œuf d'abord, puis de l'oisillon. C'est généralement au sein de ces terriers que l'espèce se fait le plus entendre. Le macareux moine émet dans ses cavités des grognements bruyants qui évoquent le son étouffé d'une scie à chaîne ou d'un beuglement. Dès avril, les individus arrivant de la haute mer parviennent aux petites îles de la Mingani ou encore aux falaises de la Gaspésie afin de se reproduire. Au cours de la période nuptiale et des accouplements, les couples nettoient les terriers et en tapissent l'extrémité de plantes herbacées, de ramilles et de plumes en prévision de la ponte. Les deux partenaires se chargent ensuite de l'incubation de l'œuf durant approximativement 6 semaines. À la naissance, l'oisillon est recouvert d'un duvet gris noirâtre sur le dos et blanc sur le ventre et pèse quelque 40 grammes. Les adultes en assument la garde en alternance pendant quelques jours avant d'aller simultanément en mer à la recherche de nourriture. La croissance du jeune est rapide lorsque la nourriture est abondante. Et il gagnera de 210 à 360 grammes supplémentaires après 4 à 5 semaines. Il quitte le nid vers l'âge de 40 jours, mais attendra quelquefois jusqu'à 70 jours si les ressources alimentaires sont maigres. Chaque jour, les oisillons reçoivent des parents de 4 à 10 portions d'une dizaine de grammes de nourriture qu'ils réclament en pépiant. Ce nourrissage semble déterminant dans l'oscillation annuelle du succès reproducteur des colonies qui varie de 60 à 90%. Au Canada, un adulte de retour au nid a été observé avec 61 larves de lançon dans son bec. Cette étonnante faculté de pêche résulte du fait que la langue et le palais de l'oiseau possèdent une série d'épines orientées vers l'arrière qui permettent de capturer de nouvelles proies tout en retenant les premières prises. L'envol des jeunes des colonies est en général passablement synchronisé et c'est de nuit que les oiseaux s'extirperont de leur terrier et s'élanceront vers la surface des eaux pour se retrouver le matin suivant en pleine mer, loin des principaux prédateurs qui surveillent pourtant les allées et venues des parents depuis des semaines. En raison de son habitude à nicher surtout sur de petites îles isolées ou le long de falaises escarpées, la prédation du macareux moine par les mammifères terrestres demeure très faible. Par contre, ces lieux ne représentent pas un obstacle pour le goéland marin, un des principaux prédateurs des macareux adultes, lorsque ceux-ci vont et viennent entre les colonies et la haute mer. Quant aux jeunes, ils doivent plutôt craindre le goéland argenté, car ce laridé est à l'affût de leur premier envol. C'est néanmoins la présence humaine qui, au cours de l'histoire, a davantage affecté les populations de macareux moines. En effet, dès la moitié du XVIIe siècle, alors que les Européens commençaient à explorer les côtes atlantiques canadiennes, la chasse, la récolte d'œufs et la destruction des habitats y ont provoqué la disparition de nombreuses colonies et causé un grave déclin des effectifs. Aussi surprenant cela soit-il, les centaines de milliers d'individus nicheurs aujourd'hui recensés dans l'est du Canada ne forment plus qu'un fragment des populations originelles d'antan. Heureusement, la tendance démographique de l'espèce s'est rapidement inversée dès les premières mesures de préservation du XXe siècle, même si l'oiseau, du fait de son grégarisme estival, reste particulièrement sensible à la pollution par les hydrocarbures. Par chance, les eaux québécoises, et de l'Est canadien en général, ont jusqu'ici été épargnées par ce type de pollution. Les filets de pêche, pour leur part, font malheureusement toujours plusieurs milliers de victimes par année dans ces parages. Et ce sont surtout les pénuries de nourriture occasionnées par la surpêche et les fluctuations naturelles de ces proies qui ont les répercussions les plus marquées sur les populations du macareux moine. Au-delà de la mauvaise gestion des stocks halieutiques par les humains, les perturbations climatiques actuelles pourraient éventuellement entraîner une modification importante de l'abondance et de la répartition des proies de l'espèce. Peu d'études se penchent présentement sur les conséquences potentielles de tels changements environnementaux sur la démographie de l'oiseau. Si on suspecte que les récentes baisses d'effectifs dans le golfe du Saint-Laurent y soient déjà reliées, un lien direct de cause à effet reste à démontrer. Par ailleurs, même si la majorité des moyennes et grandes colonies du Québec et de l'Est canadien bénéficient de la protection de réserves provinciales et de refuges d'oiseaux migrateurs fédéraux sur la terre ferme, ces mesures n'assurent aucunement la sécurité de cette espèce en pleine mer, là où elle passe la majeure partie de sa vie. Par conséquent, malgré son apparente abondance, et un statut de conservation qui n'inquiète pas encore la communauté scientifique, bien des inconnus subsistent concernant l'avenir du macareux moine dans les eaux canadiennes. En bref, macareux moine, Fratercula arctica, Atlantic puffin. Coloration, dos noir et ventre blanc immaculé, bec large de profil, mais étroit de face, orné de bandes orangées, jaunes et bleues au printemps et en été. Face grise et blanche, ornée de rosettes jaunes charnues à la base du bec, ainsi que d'anneaux rouges et de minuscules plaques bleutées autour des yeux, pattes orange vif. Longueur de 25 à 30 cm, envergure de 45 à 60 cm. Maturité sexuelle, atteinte à l'âge de 3 à 6 ans, nombre 2, un seul par année. Durée de l'incubation, de 39 à 49 jours. Soins aux jeunes, nourris par le couple de 40 à 70 jours après l'éclosion. Durée variable en fonction de l'abondance de nourriture. Longévité, de 25 à 30 ans. C'était le macareux moine entre la Minganie et l'Atlantique, un texte de Benjamin Daye, paru dans Nature sauvage, printemps 2022, numéro 55.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion et Lynn Lamarche à la lecture, Anne Hébert à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.